Sortir de l'hypocrisie éducative, promouvoir la transparence. De façon générale, si l'on souhaite construire des normes acceptables de justice éducative, il est indispensable de promouvoir une beaucoup plus grande transparence en matière d'allocation des moyens. Actuellement, dans la plupart des pays, les procédures régulant les dépenses éducatives sont relativement opaques et ne permettent pas une appropriation collective et citoyenne. On se retrouve dans des situations où la rémunération moyenne des enseignants est d'autant plus élevée que les établissements sont socialement favorisés, ou encore où l'investissement éducatif public est 4 fois plus élevé pour certains groupes, qui se trouvent être également les plus favorisés, que pour d'autres au sein d'une même génération. Le tout en toute bonne conscience, sans que personne ait jamais véritablement eu à faire de tels choix, à les examiner, à en débattre et éventuellement à les faire évoluer. Je ne prétends nullement qu'il est simple de définir la justice éducative, et ce n'est certainement pas ce livre qui va clore le débat. Mais pour que ce débat puisse avoir lieu, il est important de commencer par faire en sorte que la publication de ce type de données sur la réalité de l'investissement éducatif devienne une obligation légale, voire constitutionnelle. Il deviendrait alors possible de se fixer des objectifs et de vérifier, année après année, dans quelle mesure ils ont été atteints. En l'occurrence, il me semble qu'un objectif raisonnable serait d'une part de faire en sorte que la rémunération moyenne des enseignants cesse d'être une fonction croissante du pourcentage d'élèves favorisés dans les collèges et les lycées, et d'autre part, plus généralement, d'accroître réellement et substantiellement les moyens investis dans les établissements primaires et secondaires les plus défavorisés, de façon à rendre plus égalitaire la répartition globale de l'investissement éducatif par génération. De tels changements, qui n'auraient rien de négligeable, doivent pouvoir être vérifiés publiquement. Ils permettraient également d'accroître sensiblement les chances d'accès à l'enseignement supérieur des élèves d'origine sociale défavorisée. Toutes les études indiquent en effet que les investissements précoces, en particulier au primaire et au collège, sont les plus à même de corriger les inégalités de réussite scolaire entre enfants issus de différentes origines sociales. Cela étant posé, cette politique d'affectation prioritaire des moyens doit aussi être complétée par une prise en compte des origines sociales dans les procédures d'admission et d'affectation dans les lycées et dans l'enseignement supérieur. Cela peut se faire de différentes façons, soit en prenant directement en compte les origines individuelles, par exemple avec des systèmes de points dépendant du revenu parental et qui s'ajouteraient aux notes scolaires obtenues, ou bien en utilisant des quotas sociaux par filière, ce qui est sans doute préférable. Soit en utilisant le quartier ou l'établissement d'origine, par exemple en décidant que les meilleurs élèves de chaque collège ou lycée doivent être pris dans telle ou telle filière. Là encore, il ne m'appartient évidemment pas de trancher ici ces questions délicates. De tels arbitrages exigent des compromis sociaux et politiques complexes qui ne pourront être faits qu'à l'issue d'expérimentations sophistiquées et d'une vaste délibération et appropriation citoyenne. Par nature, les choix qui seront faits devront sans cesse être remis en cause, améliorés et adaptés aux transformations en cours. Il me semble important toutefois d'insister sur le fait que la construction d'une norme de justice acceptable par tous, ou plus modestement, d'un minimum de confiance collective dans le système utilisé, est un processus extrêmement délicat et fragile. Cela demande des conditions de grande transparence qui vont souvent à l'encontre des habitudes des responsables politiques et parfois des administrations scolaires. Certains pays, à commencer par l'Inde, ont une plus longue expérience que les autres pour appliquer des dispositifs de quotas et de réservation de places à l'université pour les catégories sociales spécifiques. Dans le cas de l'Inde, ces politiques ont d'abord concerné à partir de 1950 les catégories historiquement discriminées avant d'être étendu depuis 1990 à l'ensemble des classes sociales défavorisées, ce qui a joué un rôle majeur dans la structuration du conflit politico-idéologique dans le pays. Ces expériences sont riches d'enseignements, mais ne peuvent évidemment être transposées telles quelles dans des contextes différents. De nombreux pays en Europe ont commencé plus récemment à prendre en compte les origines familiales dans les procédures d'admission, malheureusement avec un manque criant de transparence. En France, les algorithmes utilisés pour les admissions au lycée, AFLNET, et dans l'enseignement supérieur, APB, puis Parcoursup depuis 2018, reste dans une large mesure un secret d'État. En particulier, les quotas d'élèves boursiers qui doivent être acceptés dans les différentes filières, notamment dans les classes préparatoires, ne sont pas rendus publics. En outre, la façon dont ces mécanismes prennent en compte les origines familiales et le revenu parental se caractérise par de très violentes discontinuités, ce qui n'est pas de nature à construire du consensus social à leur sujet. Concrètement, seuls les élèves boursiers, soit approximativement les 15-20% des élèves au revenu parental le plus bas, disposent de points supplémentaires dans AFLNET ou de quotas sociaux dans Parcoursup, ce qui a permis, dans certains cas, une forte augmentation de la mixité au bénéfice de ces groupes, mais est relativement injuste vis-à-vis des groupes placés légèrement au-dessus. Un système prenant en compte de façon plus continue le revenu parental et les origines sociales serait nettement préférable. Aux États-Unis, l'interdiction par les tribunaux d'utiliser les origines raciales dans les procédures d'admission se double d'une interdiction d'utiliser le revenu parental, ce qui est beaucoup plus discutable, si bien que les mécanismes utilisés ont souvent recours au quartier d'origine. Malheureusement, cela ne permet pas de promouvoir la mixité autant qu'on pourrait le souhaiter, car ce sont souvent les plus favorisés des quartiers défavorisés qui bénéficient du mécanisme, d'où l'intérêt, en règle générale, d'utiliser des caractéristiques individuelles comme le revenu parental. Au Royaume-Uni, des propositions ont été faites pour promouvoir le tirage au sort, au sein de groupes d'élèves ayant obtenu plus d'un certain nombre de points dans les épreuves scolaires, afin de démocratiser l'accès aux institutions les plus élitistes, ce qui revient à utiliser des quotas sociaux au sein du groupe en question. Cela permettrait en outre de limiter l'hyper-investissement financier et émotionnel des parents visant à permettre à leurs enfants d'obtenir des test scores toujours plus élevés, au moyen de cours additionnels toujours plus précoces et toujours plus excluants pour les catégories de parents qui n'ont ni les moyens ni les codes nécessaires. Un bon compromis pourrait être une prise en compte très limitée des notes au-delà d'un certain seuil, tempérée par un objectif prioritaire de mixité sociale. Il ne fait guère de doute que ces débats, qui dans une large mesure ne font que commencer, joueront un rôle central au cours des décennies à venir. Leur politisation ne fait elle-même que commencer et pourrait à terme contribuer à transformer de nouveau la structure du clivage politico-éducatif. Concluons enfin en mentionnant le problème particulier posé par la coexistence d'établissements publics et privés, aussi bien au niveau du primaire et du secondaire que du supérieur. En pratique, les établissements privés bénéficient généralement de financements publics, directement ou indirectement, au travers d'un statut légal et fiscal spécifique. Surtout, ils participent à l'exercice d'un service public essentiel, à savoir le droit de chaque enfant à la formation et au savoir. Dans ces conditions, il est indispensable qu'ils fassent l'objet d'une régulation commune avec les établissements publics, à la fois pour ce qui concerne les moyens disponibles et les procédures d'admission, faute de quoi, tous les efforts faits pour construire des normes de justice acceptables dans le secteur public seront immédiatement contournés par le passage dans le privé. En France, les écoles, collèges et lycées privés disposent de moyens publics substantiels, auxquels s'ajoutent les moyens apportés par les parents, ainsi que le droit de sélectionner les élèves aux origines sociales qui leur conviennent. Cela forme un ensemble difficilement justifiable en termes de justice éducative. Aux États-Unis, les universités privées refusent de rendre publiques leurs règles et algorithmes d'admission et exigent qu'on les croie sur parole quand elles affirment que leurs procédures préférentielles en faveur des enfants d'anciens élèves et de personnes fortunées faisant des dons à l'université sont utilisées avec modération. Là encore, cela ne facilite guère l'élaboration d'une norme de justice acceptable par tous. La progression vertigineuse des dotations en capital des plus riches universités privées au cours des dernières décennies, en particulier aux États-Unis, compte tenu notamment des très forts rendements financiers obtenus sur les marchés internationaux, pose également des problèmes spécifiques. Afin de limiter la croissance sans limite de ces dotations, il est parfois question dans le débat public de rehausser l'obligation de dépenser annuellement une part de ces dotations qui pourrait passer de 4-5% actuellement, suivant les universités, à 10 ou 15%. Le problème est que les plus riches universités ne savent déjà plus très bien comment dépenser leur argent. Et à l'inverse, que les universités et colleges publics accessibles aux catégories sociales les plus défavorisées manquent cruellement de moyens. Dans ces conditions, une politique relativement logique consisterait à imposer à un barème d'imposition progressive les dotations en capital des universités afin de financer un fonds permettant de doter les universités plus pauvres. Le barème d'imposition n'a aucune raison d'être le même que celui appliqué aux propriétés détenues par les individus privés, car il s'agit d'un contexte différent et d'une réalité socio-économique spécifique, et il ne m'appartient pas de le fixer ici. Il me semble toutefois qu'une telle question mérite réflexion. Il est en effet très difficile d'imaginer un scénario menant à une éducation juste aux États-Unis si on laisse les écarts de moyens entre universités élitistes et universités pauvres croître sans limite. Cette question pourrait également se poser pour des fondations et des structures non lucratives dans d'autres secteurs d'activité, comme la culture, la santé ou les médias, et devrait trouver des réponses adaptées en fonction de l'intérêt général et de la façon dont on peut le définir dans les différents cas. La démocratie juste, les bons pour l'égalité démocratique. Toutes les trajectoires historiques étudiées dans ce livre montrent à quel point la structure des inégalités est intimement liée à la forme du régime politique en place. Qu'il s'agisse des sociétés trifonctionnelles anciennes ou des sociétés de propriétaires qui s'épanouissent au XIXe siècle, ou bien encore des sociétés esclavagistes ou des sociétés coloniales, c'est bien le mode d'organisation du pouvoir politique qui permet à un certain type de régime inégalitaire de perdurer. Depuis le milieu du XXe siècle, on s'imagine parfois que les institutions politiques des sociétés occidentales auraient atteint une espèce de perfection indépassable sous la forme de la démocratie électorale et parlementaire. En réalité, ce modèle est éminemment perfectible, et il est d'ailleurs de plus en plus contesté. La plus évidente parmi ces limites est son incapacité actuelle à faire face à la montée des inégalités. J'ai tenté de montrer dans ce livre que ces difficultés devaient être replacées dans le cadre d'une histoire politique et idéologique longue et complexe, celle des régimes inégalitaires. Leur résolution exige également des transformations importantes des règles politiques en vigueur. Par exemple, nous avons noté plus haut que la mise en place de la propriété sociale est temporaire, par le partage des droits dans les entreprises et l'impôt progressif sur la propriété, pouvait demander des modifications du cadre légal et constitutionnel. Ce fut d'ailleurs le cas dans le passé pour ces mêmes questions, en particulier avec la Constitution allemande de 1949, rendant possible la cogestion et la propriété sociale des entreprises, et avec l'amendement de 1913 à la Constitution états-unienne autorisant la création d'un impôt fédéral sur le revenu et sur les successions, qui allait devenir le plus progressif de l'histoire. D'autres modifications des règles politiques jouèrent un rôle tout aussi important dans la réduction des inégalités dans les autres pays. Il fallut mettre fin au droit de veto de la Chambre des Lords au Royaume-Uni lors de la crise constitutionnelle de 1910-1911, faute de quoi le développement de l'impôt progressif n'aurait pas pu voir le jour. En France, les réformes sociales et fiscales de 1945 et de 1981 auraient eu beaucoup de mal à être adoptées si le Sénat avait conservé le droit de veto qui était le sien sous la Troisième République, et contre lequel les socialistes et les communistes se sont battus d'arrache-pied en 1945-1946. S'imaginer qu'il en ira différemment à l'avenir serait un leurre. La transformation du régime politique et celle de la structure des inégalités continueront d'aller de pair. S'interdire de changer les règles, au motif que cela serait trop compliqué, reviendrait à ignorer les enseignements de l'histoire et à empêcher tout changement réel. Nous avons déjà évoqué, dans le chapitre 16, la question de la règle de l'unanimité sur les questions fiscales en Europe et le besoin d'une refondation sociale fédéraliste de la construction européenne. Plus généralement, nous reviendrons plus loin sur la nécessité de transformer la nature des règles et des traités régissant l'organisation économique et sociale des relations entre États. Il est un autre aspect du régime politique auquel il est urgent de s'intéresser davantage, celui du financement de la vie politique et de la démocratie électorale. En théorie, le suffrage universel repose sur un principe simple. Une femme ou un homme, une voix. En pratique, les intérêts financiers et économiques, soit directement au travers du financement des partis et des campagnes, soit indirectement au travers des médias, des think tanks ou des universités, peuvent avoir un effet décuplé sur les processus politiques. Nous avons déjà évoqué précédemment le cas des sociétés de médias à but non lucratif, qui pourraient devenir la norme pour organiser la production d'informations, ce qui permettrait de placer les organes de presse et d'information dans une situation de beaucoup plus grande indépendance face à leurs financeurs, et en particulier face aux actionnaires les plus importants, grâce au plafonnement des droits de vote. Il faut aussi considérer la question des financements politiques directs, qui peuvent, pour des raisons évidentes, biaiser les priorités des partis et mouvements politiques et compliquer considérablement l'adoption de mesures adéquates pour lutter contre les inégalités, compte tenu, par exemple, de l'hostilité souvent radicale des personnes les plus aisées à la mise en place d'une fiscalité plus progressive. Or, on constate que cette question des financements politiques n'a jamais été véritablement pensée de façon cohérente. Certes, de nombreux pays ont mis en place des éléments de législation permettant de fixer des limites au pouvoir de l'argent privé en politique et parfois d'instaurer de timides systèmes de financement public, comme en Allemagne dès les années 1950, aux États-Unis et en Italie dans les années 1970 et 1980, ou encore en France dans les années 1990. Mais il est frappant de constater à quel point ces tentatives ont été morcelées, incomplètes, et surtout ne sont pas vraiment appuyées les unes sur les autres. Contrairement à d'autres domaines, peut-être plus visibles de la législation des États, où les effets de diffusion et d'apprentissage mutuel ont été plus rapides, comme dans une certaine mesure pour l'impôt progressif, pour le meilleur et pour le pire, les dispositifs touchant au rôle de l'argent en politique semblent avoir été conçus de façon presque complètement indépendante dans les différents pays. Les travaux récemment réalisés par Julia Cagé ont pourtant permis de montrer à quel point un examen méticuleux de cette histoire mouvementée était riche d'enseignements. Notamment, l'analyse des différentes mesures qui ont été expérimentées jusqu'ici suggère qu'un système particulièrement prometteur serait celui des « bons pour l'égalité démocratique ». Pour résumer, l'idée serait de donner à chaque citoyen un bon annuel d'une même valeur, par exemple 5 euros par an, lui permettant de choisir le parti ou mouvement politique de son choix. Le choix se ferait en ligne, par exemple au moment où l'on valide sa déclaration de revenus et de patrimoine. Seuls les mouvements obtenant le soutien d'un pourcentage minimal de la population, qui pourrait être fixé à 1%, seraient éligibles. S'agissant des personnes choisissant de ne pas indiquer de mouvement politique, ou de celles indiquant un mouvement recueillant un soutien trop faible, la valeur de leur bon annuel serait allouée en proportion des choix réalisés par les autres citoyens. Ce dernier point est important, car l'absence d'une règle de ce type a conduit à l'effondrement de systèmes de financement public expérimentés, notamment aux États-Unis, compte tenu du très grand nombre de citoyens choisissant de ne pas contribuer au financement public des partis. Or, la démocratie n'est pas une option. Si certaines personnes ne souhaitent pas s'engager, cela ne doit pas réduire le financement public envisagé, au demeurant peu considérable. Le système de bons pour l'égalité démocratique s'accompagnerait par ailleurs d'une interdiction totale des dons politiques des entreprises et autres personnes morales, comme cela est déjà le cas dans de nombreux pays européens, par exemple en France depuis 1995, et d'un plafonnement radical des dons et cotisations des individus privés, que Julia Cagé propose de limiter à 200 euros par an. Ce nouveau régime de financement de la vie politique s'accompagnerait également d'obligations extrêmement strictes à l'égard des partis et des mouvements politiques souhaitant présenter des candidats aux élections, à la fois en ce qui concerne la publication de leurs comptes et la transparence sur leurs statuts et leurs règles de gouvernance interne qui sont parfois extrêmement opaques.